Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
On parle de la SNCF ce matin.
Une vieille dame de 80 ans, elle est née le 1er janvier 1938, une vieille dame qui serait parfaitement heureuse si elle n'était pas forcée de faire circuler des trains et si elle n'avait pas un actionnaire, l'État qui affiche son mécontentement. L'exécutif met la SNCF sous la pression, titre Le Figaro, qui publie, on la lui a donné, la lettre de convocation des dirigeants de l'entreprise par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et Le Figaro donne la coulisse, c'est lors de son séjour au ski à la Mangie, qu'Emmanuel Macron a demandé ses convocations tranchantes. Ah, la coulisse, Nicolas. Et la presse hésite entre le peuple et les élites. Est-ce qu'on parle des trains qu'emprunte le commun des mortels ou est-ce que l'on parle ce matin d'un mortel hors du commun, dont Guillaume Pépi, 10 ans de présidence de la SNCF, 20 ans à la direction de l'entreprise, ce qui fait tenir Pépi, s'extasie l'opinion. Et on nous raconte un homme que le Figaro qualifie d'insubmersible et qui a des réseaux. C'est dans l'opinion. Pépi, que Muriel Pénicaud, ministre des Affaires sociales, défend, eh bien oui, ils se sont connus jadis au cabinet de Martine Aubry. Pépi qui embaucha jadis Elisabeth Borne, sa ministre de tutelle, mais à l'époque en galère après la chute du cabinet Jospin auquel elle appartenait. Et le journal Capital, sur son site internet complète, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'oublie pas ce qu'il doit à Pépi, notamment l'installation à Lyon de la direction générale des TER. On lit aussi dans le Figaro que patron de la SNCF, c'est un job mal payé, qui en voudrait. Voilà donc le domaine des dieux et lisant cela, le voyageur en train doit se sentir un peu quantité négligeable. Les Échos racontent que la SNCF a passé une très bonne, presque trop bonne année financière. La Croix raconte le bonheur de la SNCF dans la diversification et la mondialisation. Le métro automatique à Hyderabad en Inde, le train de banlieue à Boston aux États-Unis, le ferry à Newcastle au Royaume-Uni, c'est la SNCF. Mais l'esprit ferroviaire en France disparaît, dénonce des syndicalistes, notamment dans l'Humanité. Mais voilà, le rail se venge. La Provence fait sa une sur un réseau au point de rupture dans le Sud-Est. Et le journal Provençal raconte comment le trafic a été perturbé pendant 6 jours, du 29 novembre au 5 décembre dernier, parce qu'un fil électrique introuvable s'était dénudé à Miramas. Il a fallu vérifier 3000 fils et bloquer les aiguillages avec des cadenas. Pourtant, on l'aime encore, la SNCF, et on l'espère. Le Courrier Picard en fait sa une. La SNCF va ouvrir à Amiens un atelier de maintenance. Ce n'était pas arrivé dans cette région depuis un siècle. On va y entretenir les rames Paris-Amiens-Boulogne, des trains normaux, pour gens normaux, jusqu'ici négligés pendant que l'on bichonnait les Eurostars. Voilà, on a tout compris de ce qu'étaient les priorités.
Un mot de réaction, Christian Jacob, à l'épaisseur tout de même du dossier SNCF Guillaume Pépi, convoqué donc aujourd'hui. Quel commentaire ça vous...
D'abord, une grosse opération de communication, parce que là, on met en scène, on est vraiment dans la mise en scène hein, de ce rendez-vous annoncer les convocations. D'ailleurs, Claude Askolovitch le rappelait, depuis les pistes de ski, Emmanuel Macron commandite cette convocation. Donc beaucoup de mise en scène maintenant sur le fond.
Quand ça dysfonctionne, est-ce que comment dire, ça ne dysfonctionne pas par en haut une entreprise et qu'à un moment il faut prendre ses responsabilités, le reconnaître, peut-être partir, en tout cas remettre son mandat en jeu?
Écoutez, ça mérite d'avoir plus d'informations que j'en ai. Ça pourrait être un travail d'ailleurs de la commission des affaires économiques, d'avoir une commission d'enquête sur ce sujet.
Sur la SNCF. Et
de regarder ce qui s'est passé.
Ça mériterait.
Moi, j'ai pas de... Oui, je pense que ça peut être un travail de commission. Et je le dis de commission, pour pas dire on va faire une commission d'enquête par un groupe politique. Mmh. On met de côté, je veux dire, l'aspect politique, mais regardons réellement ce qui s'est passé et d'où viennent effectivement ces dérives, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a quand même eu quelques-unes en peu de temps. Mais bon, moi, à ce stade, j'ai pas ces éléments d'information.
8h36, Claude Askolovitch, la suite de la revue de presse avec les journaux qui prennent et disent le deuil de France Gall.
Oui, c'est Libération qui prend ce deuil avec le plus d'élégance. On voit la une du journal France Gall qui sourit en noir et blanc. Elle sourit également à la une du Parisien, mais on a l'impression que là, ses yeux sont humides. Et le Parisien cite la chanteuse. Si on me proposait de revivre la même vie, je dirais non. La prochaine fois, je demanderais à avoir une vie plus douce. Mais Libération, qui titre France Gall, évidemment, se souvient d'une autre phrase à propos de Michel Berger. J'ai été la femme et la chanteuse la plus heureuse du monde. Et cette vie heureuse qui ne fut pas douce avec la mort d'un mari, donc Michel Berger, et la mort d'une petite fille, Pauline, fut une partie de nos existences. C'était notre France, titre Le Parisien. Et en province, des journaux rappellent des liens particuliers. Nice Matin, qui titre Douce France, raconte Ramatuelle et les cours de tennis des enfants. Ouest France, raconte Honfleur, où Michel Berger et France Gall travaillaient en paix. C'était avant la tragédie. Mais c'est dans Lyon Républicaine que l'on va trouver Isabelle Gall, qui deviendrait France pour des raisons de show business et qui passait des vacances à Pourray, en Puisaye, et qui donna son premier concert à 15 ans à Auxerre, place de la cathédrale, dans une belle demeure bourgeoise pour sa famille et ses amis. C'était à l'orée des années 60. France Gall était jeune. Des journaux la renvoient souvent à ses premières années. On parle de la poupée. Ça ne lui rend pas justice puisque ces mots la figent dans un mode acidulé, adolescente pour toujours et passive, alors qu'elle était au contraire forte et vivante. On apprend dans Libération qu'elle se passionnait pour le rap et le R&B. Youssou N'Dour, sur le site internet seulement du Parisien, raconte son lien avec le Sénégal. Elle donnait. Le Figaro titre « Une muse française » pour parler de cette femme déterminée. Et en lisant les réactions qui s'accumulent et que nos journaux rassemblent, on réalise que France Gall avait vraiment donné aux autres, pas seulement à Gainsbourg et à Michel Berger, et même à des gens qu'on n'attendrait pas là-dessus. Ils ont de la chance, les anges. Ils viennent d'être rejoints par une étoile. S'ils pouvaient lui dire quelques mots d'amour de ma part, ce serait chouette, dit ainsi Christophe Castaner, patron de La République En Marche, habituellement adepte d'une rugueuse langue politique et qui trouve ainsi d'autres accents. C'est une des grâce que France nous laisse.
Et pour finir, Claude, enquête de Mediapart sur les suicides en prison.
Et qui commence par cette phrase, on sait bien peu de choses des destins de Bilal, Christelle, Diaz, Franck, Jérémy, Jordi, Kim, Laurent, Martial, Mathéo, Nathan, Sébastien, Stéphane ou encore Zbigniew. Tous morts cette année dans un établissement pénitentiaire français. C'est ce qu'écrit Mediapart qui publie une enquête qui est à la fois méticuleuse et glaçante. Le journal a recensé 72 suicides en 2017, addition probablement en deçà de la réalité. Le plus jeune suicidé avait 16 ans. Le journal précise, Fresnes et Marseille avec leur taux d'occupation de 175 et 125,5%, où les rats et les insectes nuisibles pullulent, sont les prisons où on s'est le plus tué en 2017. Mais l'enquête accuse moins qu'elle n'interroge une institution pénitentiaire qui essaye de limiter les dégâts humains mais est dépassée. Les prisons ainsi sollicitent des détenus de soutien. Ce sont des volontaires qui accompagnent leurs codétenus suicidaires. Mediapart rapporte le témoignage de l'un d'entre eux, confronté à sa solitude, jamais remercié, et qui avait appris qu'un homme qui l'avait accompagné avait fini par se pendre quand même, après avoir été changé de cellule. Pour ces gens-là, Zbigniew et les autres, nul ne parlera jamais de paradis blanc.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.